J'aime bien. C'est l'approche scientifique. D'accord? Ça, c'est souvent, c'est souvent de moins en moins, à vrai dire, mais quand même, on vient nous opposer la science à la foi. Et ça, c'est terrible quand les gens le font. Et en fait, c'est juste pour dire, je vais peut-être dérouler 10 minutes ce matin sur la science, et puis après, on peut discuter sur d'autres questions si vous avez besoin d'avoir des aiguillages sur certaines autres questions. Opposer la science et la foi, la première chose que je dirais, c'est que c'est récent. En fait, ça date de un siècle seulement. Avant, ça n'existe pas. La foi et la science font tout à fait bon ménage. Il n'y avait aucun problème dans la tête des scientifiques à garder la foi et à explorer la science. Et c'est en fait une volonté politique qui est née au début 1900 de vouloir, avec toutes ces lois sur le séparatisme entre l'État et le religieux, où on a aussi créé ce séparatisme entre la science et la foi pour aboutir à, en apparence, bien sûr, à vouloir opposer foi et science. Et heureusement, la science moderne a fait de telles avancées et de telles découvertes qu'aujourd'hui, il devient impossible presque de garder ça et de dire, ah non, mais la science prouve que Dieu n'existe pas. En fait, c'est devient impossible. C'est l'inverse. La science prouve de plus en plus que Dieu existe. Alors, il existe des super bouquins et le dernier qui est sorti, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. J'ai offert ça à mon fils qu'il lit. Alors, parfois, c'est un haut niveau hein, de science, mais c'est bien, il faut qu'on lise des choses à haut niveau. Et puis parfois, c'est juste voilà, des choses qui sont expliquées simplement. Mais vous pouvez aller voir, ça a été fait par Michel Yves Bolloré et Olivier Bonassiès, qui sont des grands scientifiques de renom. Tiens, mon chéri. Donc vous pouvez aller voir le bouquin, prendre les références. Il y a d'autres livres qui existent et qui défendent justement ce point de vue-là, que la science ne s'oppose pas du tout. À la fois, même si on entend souvent que la science, elle prouve les choses, alors que la foi, elle aurait tendance à nous infantiliser. Il faut pas nier, bien sûr, que l'Église, au sens avec un grand E, a fait des bêtises et a parfois dit des bêtises sur la science. On se souvient tous, par exemple, de l'héliocentrisme avec Galilée. La Terre au centre de l'univers, ou les rumeurs. Et ça, vous savez que c'est des rumeurs seulement, ou quand on dit, ah oui, mais l'Église, elle avait dit, par exemple, que la Terre était plate. Ça, c'est des rumeurs. C'est pas des faits. Parce qu'en fait, quand on cherche, ben, il n'y a rien. C'est une rumeur qui a circulé et les gens ont gardé ça. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent au sujet de la science. Et les gens ne font pas assez de science pour se rendre compte que, ah, peut-être que ce que je dis, c'est limite. J'aime bien cette citation de Pasteur. Bon, Luther King a dit, il peut y avoir conflit entre homme de religion à l'esprit débile et homme de science à l'esprit fermé. Mais point entre science et religion. D'accord? C'est pour dire, c'est les extrêmes où c'est compliqué. Et j'aime bien cette citation de Pasteur, c'est un peu de science éloigne de Dieu. Moi, je crois savoir. Moi, je sais. Mais en fait, si je fais beaucoup de science, eh bien, je reviens à Dieu. Parce que je découvre vraiment quelles sont les choses. Il faut faire attention, nous, de notre côté, du côté de la religion, à pas enfermer. La recherche, d'accord? À pas rejeter le côté de la recherche. À mon fiston, je lui dis toujours, laisse la science chercher. Laisse la science chercher. Alors bien sûr, ne prends pas pour content tout ce qui est dit, mais laisse la science chercher. Parce que c'est son travail à la science de chercher, d'accord? Et nous, on ne doit pas venir en disant « Oh non, ça, il faut pas, le Big Bang, il faut pas y toucher, non, non, les théories évolutionnistes, il faut pas. » Non, laissons la science chercher, d'accord? Et n'ayons pas peur d'aller fourrer notre nez dans les conclusions, d'accord? N'ayons pas peur de ça. Et ceux qui viennent avec beaucoup d'assurance, je peux vous dire, c'est qu'en général, ils n'ont pas beaucoup de science. Et je le vois avec mes collègues profs. Encore cette année, une collègue vient me voir, elle sait que je suis chrétien, et première question qu'elle me pose, c'est sur les hommes préhistoriques et les hommes des cavernes. Et en fait, quand je gratte, ben, il n'y a rien. Elle a juste une rumeur qui est là, et elle croit que la rumeur est vraie, elle n'a aucune preuve, elle n'a jamais rien lu, et quand on commence à lui poser des questions, « Ah ben je sais pas. Ah ben je sais pas. Ah ben pourquoi tu dis ça ?»« Ben parce que c'est l'effet scientifique. » Et du coup, n'ayons pas peur, d'accord ? Il faut savoir, est-ce que vous savez quel est le livre qui est le plus critiqué depuis 15 siècles ? Le plus large ? La Bible ! Il n'y a pas d'autre livre qui est plus critiqué, attaqué. Est-ce qu'il est démonté ? Non, ça fait 15 siècles qu'il tient. Est-ce que vous croyez que maintenant on va le faire tomber ? Non, on ne peut pas faire tomber la Bible. C'est impossible. Ça fait 15 siècles. Et c'est pas les gens peu éduqués qui attaquent la Bible. C'est les universitaires. D'accord ? On l'a attaqué dans tous les sens. Par la science, par la philosophie, par la sociologie, par l'histoire. Et à chaque fois, on se casse les dents. On se casse les dents. Je me souviens, dans les années 90, on disait « Ouais, la Bible, historiquement, elle est fausse. » Parce qu'on a au moins une preuve que c'est faux. C'est le premier pharaon, là, il n'a pas existé. Ah, manque de peau, 3 ans plus tard, on a découvert, on a fait des fouilles et on a trouvé les vestiges de ce pharaon dont il était parlé dans le livre de la Genèse. Voilà, et c'est constamment comme ça. La Bible est attaquée, oui, soyons les premiers à le dire, mais la Bible tient et la Bible reste debout, d'accord ? Donc n'ayons pas peur nous-mêmes que la Bible soit attaquée, oui ? Plus fort, je n'entends pas. Tout à fait. Si vous avez vu le livre Jésus l'enquête, vous savez par exemple que si on veut parler d'antiquité de toute cette période-là, hein, autour de Jésus, ben, la Bible reste le livre par excellence. Historique. D'accord ? Et si on prend les autres livres, en fait, on a très peu de traces. La plupart des autres livres, on a une dizaine de copies. Le livre où il y a le plus de traces, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Vous savez ? Non ? Bon. C'est un vieux livre. Et celui-là, il y a à peu près, je crois, 200 copies. C'est le livre. Voilà. Et par contre, la Bible, on est à combien ? Plus de 4800 copies. Enfin, c'est juste pour vous dire que la science est géniale, en fait. Il faut aller fourrer son nez dans la science. Et ça s'appelle la science textuelle. D'accord ? Et la Bible tient. Si on critique textuellement la Bible, vous pouvez mettre à la poubelle tous les livres historiques sur l'Antiquité. Tous. Parce qu'on a juste quelques brindilles. Alors que avec la Bible, on a foison. Foison de sources. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Oui ? On continue un petit peu sur la science. Donc la science nous ramène à Dieu et il y a plein de mathématiciens qui calculent plein de choses. Une des attaques, par exemple, une fois on m'a dit « Les théories du Big Bang ont bien expliqué que la Terre avait des milliards d'années. Et comment est-ce que tu peux croire que la Terre s'est créée en 6 jours? D'accord. Est-ce que c'est fou de penser ça? Alors personnellement, j'ai aucun problème avec les théories du Big Bang. Et on peut largement imaginer et intégrer au texte de la Genèse que Dieu ait pris du temps pour créer la Terre, ça me pose aucun problème. Néanmoins, est-ce fou de penser que la Terre a été créée en 6 jours? Ben, je pense pas. Est-ce que tu peux changer, vas-y encore, encore. Voilà. Juste une petite citation. Bill Bryson, récipiendaire du prix A26. Et du prix Descartes, donc c'est quand même pas n'importe qui. Et lui, il a dit, il n'est pas chrétien au passage, et il a dit, c'est ainsi que du néant, donc la formation de l'univers, commence notre univers. En un éclair, en un instant de gloire, trop rapide et vaste pour être décrit, la singularité prend les dimensions célestes et devient espace au-delà de toute imagination. Donc en un instant, l'espace se crée. De cette première seconde naissent la gravité et toutes les lois de la physique. Une seconde. On continue. En moins d'une minute, l'univers s'étend sur 1 million de milliards de kilomètres. En moins de 1 minute. Et c'est pas fini. La température est alors de 10 milliards de degrés, apparaissent l'hydrogène, l'hélium et le lithium. En 3 minutes, qu'est-ce qui se passe? 98% de toute la matière qui existe ou existera jamais est produite. On parle à l'échelle de l'univers. Hein. Est-ce fou de penser que la Terre a été créée en 6 jours, les amis? En 3 minutes, tu as toute la matière de l'univers. Et c'est le prix A26 et le prix Descartes qui dit ça. C'est pas moi. D'accord? C'est juste pour dire que, ok, tu veux venir me titiller là-dessus, moi aussi je vais te titiller. Excuse-moi, mais si en 3 minutes il y a 98% de la matière, en 6 jours je pense qu'on peut raisonnablement croire que la Terre a été créée. En tout cas, c'est pas hors de la pensée. Tu peux. Hop. Vas-y, tu peux dérouler quelques citations. Sondage, ça c'est celui que je mets en général sur Internet, j'aime beaucoup. Il semble bien improbable qu'un tel ordre soit sorti du chaos, donc pareil la création de l'univers. Il doit y avoir un principe d'organisation. Pour moi, Dieu est un mystère, mais il est l'explication du miracle de l'existence, la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. Et lui non plus, c'est pas n'importe qui. Regardez, il a vérifié les mystères des quasars, révélé l'âge des agglomérations globulaires, identifié les distances de galaxies lointaines. Enfin bref, rien que de lire son CV, ça fait mal à la tête. J'aime bien aussi Robert Griffiths, qui a reçu un prix de mathématiques, et il dit, si nous avons besoin d'un athée pour un débat, eh bien, je vais au département philosophie. Parce que le concours du département de physique ben, serait bien maigre. En gros, il nous dit quoi? Il nous dit que les scientifiques, ceux qui cherchent vraiment, eux, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas athées. Il n'y en a pas beaucoup des athées dans ceux qui sont face. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand athée qui a fini par fléchir le genou. Vous savez, celui qui est mort de la maladie de Charcot il y a 2 ans, je crois. Hawking, voilà. Toute sa vie, il a pestiféré contre la foi et contre la religion. Lui, grand scientifique. Et bien sûr, quand vous lisez son argumentaire, bon, c'était pas un argumentaire très détaillé, mais il était contre, voilà. Et quand même, à la fin de sa vie, avant de mourir, il a admis publiquement que il ne pouvait pas admettre que l'univers se soit créé de manière hasardeuse et qu'il devait bien y avoir un organisateur, et il appelle ça un architecte, qui est organisé la structure de l'univers. Et quand on étudie les lois, et les lois de la thermodynamique, et mon chéri me sortait une citation là du bouquin, c'est même les lois qui ont créé la thermodynamique, c'est juste hallucinant. C'est impressionnant de précision, d'accord? Mais je crois qu'il y aura des choses là. On peut passer. Bon, c'est d'autres citations. Je ne sais pas si on va tous les lire, mais par exemple, voilà, un biologiste. Non, c'est un astrophysicien spécialisé dans l'astronomie extragalactique. Enfin bref, un gars qui est intelligent. Il dit la biologie ne connaît pas les processus qui ont mené des atomes inanimés à la vie. Vous savez, c'est toujours le rêve des scientifiques de prendre de la matière inerte, de la mélanger très très fort et pouf, d'avoir la vie qui apparaît. Et on n'y arrive toujours pas, hein. L'émergence de la vie dépend en effet d'un réglage extraordinairement précis de conditions initiales et d'une poignée de constantes physiques. Changer un tant soit peu l'une de ces conditions, nous ne serions plus là pour en parler. La précision avec laquelle il faudrait régler les différentes conditions et constantes pour aboutir à un univers comme le nôtre, donc là la création de l'univers et la vie sur Terre, équivaut à la précision qu'un archer devrait avoir pour placer une flèche dans une cible de 1 cm carré, donc c'est ça, hein, à une distance de 15 milliards d'années-lumière. Il faudrait être bon quand même. On peut passer. Bon, c'est des belles citations et on peut les avoir, ces citations. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous transmets tout ça. Il y en a plein, il y en a plein de vrais scientifiques. Docteur Francis Collin, généticien, il va dire il existe de bonnes raisons de croire en Dieu, notamment l'existence des principes mathématiques et de l'ordre dans la création. Il s'agit de raisons positives fondées sur des connaissances plutôt que sur des hypothèses ou basées sur un manque temporaire de connaissances. De bonnes raisons, les jeunes, d'accord? Donc vous ne laissez pas déstabiliser à l'école parce que la science est de votre côté. Voilà, j'ai un peu listé quelques noms des grands scientifiques qui revendiquaient la foi. Robert Boyle, vous allez l'étudier au lycée, là, les jeunes, père de la chimie. Mendel, père de la génétique. Thomson, père de la thermodynamique. Pasteur. Dalton, la théorie sur les atomes. Pascal, mathématicien. Ray, père de l'histoire naturelle britannique. Steno, l'un des plus grands géologues, etc. On peut passer. Cuvier, Maury, Anderson, Morse, et il y en a plein d'autres. Je passe parce qu'il y en a tellement. Beaucoup de science, nous dit Pasteur, nous ramène à Dieu. Reviens en arrière. Oui, non, vas-y, continue, pardon. Voilà. Donc, un petit verset. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Amen. N'ayons pas peur, elles se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. D'accord? Et Paul, d'ailleurs, dans le même chapitre, va continuer et il va dire: C'est pour ça que vous, les païens, vous êtes inexcusables. Waouh! Ils sont inexcusables parce que si on regarde honnêtement la création de Dieu, on voit Dieu dedans. Si on le regarde d'un cœur malhonnête, on ne verra pas Dieu dedans. Mais si on est honnête face à ce qu'on observe, on va dire, ben oui, Dieu ne peut qu'exister. Je ne peux pas croire autre chose. Ou alors, je crois il faut vraiment que je sois très fort dans ma foi en le hasard et en toute autre chose. On passe. Donc l'ADN, vous savez, je vous donne juste quelques chiffres rapides. Vas-y, passe. Oui, c'est bon, tout le monde sait ce que c'est que l'ADN. Le corps humain en est composé, 60 milliards de cellules. Et si on déroule l'ADN, vous savez, c'est des brins, c'est les protéines qui sont accrochées. Et si on le déroule sur un adulte, pas un enfant, donc pas encore vous, quoique maintenant ils sont très grands, si on le déroule, vous avez vu la distance? Vous avez vu ou pas? 800 fois la distance Terre-Soleil. 150 millions de kilomètres. C'est des données scientifiques, hein, c'est pas, j'ai pas sorti ça de mon chapeau. Hein. Vous allez sur les revues scientifiques et vous aurez les mêmes chiffres. 150 millions de kilomètres. 300 000 fois la distance Terre-Lune. 3 millions de fois le tour de la Terre. Et si on débranche deux, trois brins d'ADN, deux, trois brins, hein, qui ne sont même pas observables à l'œil humain, soit on tue, soit on crée des maladies, et on est composé de 150 millions de kilomètres. On peut passer? Pardon? Non, 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 je crois que c'est la distance totale. D'accord. Ça, je sais pas, mais déjà 150 millions, c'est pas mal. On peut passer. Si on voudrait taper le génome humain, donc vous savez, c'est les lettres qui constituent l'ADN, si on donne ça à un sténo, 8 heures par jour, il faut 50 ans. Il ne faut pas se tromper. Pour ceux qui ont déjà fait de la sténo ou qui pianotent sur leur clavier en envoyant des mails, moi je fais des erreurs. Sauf que là, une erreur, ça veut dire maladie ou mort. C'est juste hallucinant, non? On passe. Probabilité, c'est quoi? Ah oui, il y a un mathématicien, Salisbury, qui s'est amusé à calculer pour que si on met toutes les protéines contenues dans l'ADN ensemble, dans le shaker, on secoue, et hop, on a un brin d'ADN, un brin hein, qui apparaît. Il y aurait une chance sur 10 avec 600 zéros derrière. Bon, c'est en dehors de notre portée, sachant que la science moderne admet que 1 sur 10 puissance 9, c'est impossible. Dès qu'on est au-delà, on dit que ça ne peut jamais arriver. Là, on est à 1 sur 10 puissance 600. On continue. Le cerveau, 100 milliards de cellules nerveuses, autant que d'étoiles dans notre galaxie. Il peut trier 100 millions de messages à la seconde, contrôle simultanément les systèmes digestifs, circulatoires, respiratoires, nerveux. Il peut enregistrer les informations de 20 millions de livres de taille moyenne. Pas d'excuses, les jeunes. Le cerveau humain est la forme de matière organisée la plus complexe de l'univers. On estime que le nombre de permutations et de combinaisons possibles dans l'activité cérébrale surpasse celui des particules élémentaires dans l'univers. Waouh! Et tout ça se serait créé de lui-même. On a du mal, hein, non? On a du mal à admettre ça. Et c'est pas n'importe qui dit ça, hein. Je vous laisse lire. Voilà, c'est un grand monsieur, une grande dame plutôt, Suzanne. On passe, je peux vous envoyer tout ça, hein, si vous les voulez. On passe. L'odorat. On est une belle machine quand même. Hein. 6 millions de neurones quand on sent une belle fleur. Grâce à notre épithélium olfactif, nous pouvons détecter 1 sur 460 millions de milligrammes d'une substance contenue dans une bouffée d'air. Waouh! On est bon, hein? Et le chien, c'est 200 ou 300 fois plus, je crois. On passe. L'œil, il semble absurde au possible de supposer que... Ah, ça, c'est une citation de Darwin. Darwin, le père de l'évolutionnisme moderne, d'accord, qui au passage était chrétien et est resté chrétien, donc il n'a jamais attaqué la foi avec sa théorie, mais même lui dit, il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer, d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. Qu'est-ce qu'il nous dit Darwin? Il dit, ma théorie, ça va à peu près sur la plupart des parties du corps humain. Je pourrais être d'accord, mais sur l'œil, non. Je ne peux pas l'admettre, sachant qu'à son époque, il n'étudiait pas encore le cerveau. Donc c'est puissance million, comme on l'a vu. L'œil est composé de 130 millions de cônes et 7 millions de bâtonnets. La rétine reçoit l'image par le cristallin, s'ajuste automatiquement. L'iris s'ajuste aussi à la quantité de lumière pour éviter l'éblouissement. Et les deux yeux travaillent en synchronisation pour obtenir des images 3D. Enfin bref, c'est un bijou de technologie qu'on n'a pas réussi bien sûr à égaler et qui nous place devant, waouh, la création de notre Seigneur. C'est juste extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est un argument, l'argument de Palais, si vous voulez le retenir quand on se balade et qu'on traverse un buisson, que notre pied se heurte contre une pierre, ben on peut dire, ah, bon, c'est le hasard, il y a plein de pierres, il fallait bien que j'en heurte une. Mais si mon pied se heurte contre une horloge ou contre une montre, est-ce que je vais penser, ah, tiens, la montre s'est créée toute seule et c'est par hasard qu'elle se trouve sous mon pied et que je la heurte? D'accord? C'est pour dire que quand on regarde à la science et à la manière dont la création, que ce soit l'univers, que ce soit le corps humain, que ce soit le monde animal, n'importe quoi, est constituée, il paraît fou de dire que ça s'est fait tout seul. C'est la même chose de dire que votre belle montre suisse, vous avez mis les pièces dans un sac, vous avez secoué le sac, et hop! Vous avez obtenu votre montre parce que vous l'avez secouée assez longtemps. Mais c'est ça que la science nous dit, pas la science, la philosophie qui est cachée derrière l'interprétation scientifique. D'accord? Et nous, en tant que chrétiens, nous devons isoler les deux. La science amène des preuves de certaines choses et nous sommes ébahis en admiration devant ça. Néanmoins, la philosophie, on va préférer celle de la Bible parce que elle nous parle de celui qui a créé toutes ces choses-là. Amen. Voilà, on peut arrêter. Il y avait des exemples sur les animaux. Passe. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ceux qui militent si fortement contre l'idée du hasard, c'est le caractère universel de la perfection. Voilà. Le fait que partout où l'on regarde, à quelque échelle que ce soit, infiniment grand, infiniment petit, on trouve une élégance, une ingéniosité d'une qualité absolument transcendante. C'est juste éblouissant. Voilà. On continue. Et on finit par Einstein. Alors, j'ai lu en cherchant un peu sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des gens qui citaient Einstein comme étant un athée. C'est rigolo, hein, regarder une citation d'Einstein. Tous ceux qui abordent la recherche scientifique avec tout le sérieux que cela exige finissent par être convaincus qu'il est indéniable qu'un esprit intervienne dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme et en face duquel nous, avec nos limites, devons éprouver une saine humilité. En cela, la recherche scientifique éveille un sentiment religieux particulier qui n'a rien à voir avec la religiosité d'une personne naïve. Voilà, c'est pas mal. Je pense qu'il avait trouvé quelque chose de Dieu, Einstein. Tout ça pour dire, voilà, que la science est notre amie, les amis. Ne laissons pas le monde l'utiliser contre nous, mais retournons les choses contre eux en disant, mais à toi de m'amener la preuve. D'accord? Pourquoi ce serait à moi? Toi, montre-moi que Dieu n'existe pas par la science. Je suis toujours tout ouïe. Et en général, vous vous apercevrez que la plupart des personnes avec qui vous parlez, ce ne sont pas des vrais scientifiques. Ce ne sont pas des gens qui veulent savoir. Ce sont des gens qui ont des présupposés, qui ont entendu des rumeurs, vous savez, le bruit qui court, et qui répètent, en plus, très souvent, en faisant le téléphone arabe, c'est-à-dire qu'ils ont lu un truc et ça devient complètement autre chose sur leur discours. Ça m'est arrivé justement encore l'année dernière, où on discutait de l'éducation avec un collègue de boulot, et il me fait une citation d'un gars connu dans l'éducation. Je lui dis, mais t'es sûr qu'il dit ça? Il me dit, oui, je l'ai lu, je l'ai étudié, tout ça. Je lui dis, t'es sûr? Il dit, oui, ok, d'accord. Je suis allé lire, et je reviens vers lui, et je lui dis, c'est pas ce qu'il a dit. Et très souvent, ça fonctionne comme ça. Et parfois, nous, on fonctionne comme ça. Et nous, nous devons faire attention à cela, d'accord? Quand nous citons des sources, vérifions-les. Ou alors, préférons dire, je ne sais pas. D'accord? Plutôt que de citer quelque chose, oh, et de se planter, c'est pas bon. Non, on ne sait pas, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller jeter un coup d'œil, je vais aller chercher, et je vais aller m'éblouir, m'émerveiller dans la beauté de ce que Dieu fait. D'accord? En fait, le temps a filé, c'est déjà midi. J'espère vous avoir donné au moins envie de continuer à chercher, de ne pas avoir peur, voilà, de vous confronter aux questions. Ce qui peut aussi être fait, c'est que vous notiez les questions quand vous discutez avec quelqu'un et puis vous les fassiez remonter. Et puis on peut aussi vous aider à apporter certaines réponses. Il y a des réponses, d'accord? On peut parler de plein de choses dans la science. On peut aborder la datation, on peut aborder les dinosaures, on peut aborder les hommes de Cro-Magnon ou l'évolution. Il n'y a aucun souci avec tout ça. On peut aborder le bien et le mal. Moi, c'est un des sujets que j'aime de plus en plus parce que je trouve qu'il est imparable. Alors, quand quelqu'un arrive et vous dit, mais pourquoi, si Dieu existe, il n'y aurait pas tous ces malheurs, pourquoi il y a la guerre? J'aime cette question. Parce qu'on aboutit forcément sur la preuve, pour moi, de l'existence de Dieu. Parce que si la personne est contre la guerre, ça veut dire qu'elle a une idée, elle a une notion du bien et du mal. Mais d'où elle lui vient, cette notion? Et c'est là où c'est intéressant. Et si j'admets qu'il existe un bien, quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mal, je suis obligé d'admettre que cette chose, elle est valable pour tout le monde, sinon elle est relative. Et vous savez, on en avait parlé une fois, on peut facilement conclure avec ça, si la morale est relative, ben, ce qu'a fait Hitler, ben, c'est discutable. Après tout, ça peut être pas trop mal, d'un point de vue. D'accord? Et on peut prendre des exemples extrêmes, terribles, on va pas le faire ce matin. Pour montrer en fait que non, il existe bel et bien une morale absolue et pas relative. Et si cette morale absolue existe, eh bien, il a bien fallu un être à l'extérieur de cette morale pour pouvoir nous la proposer. Et donc, cet être, c'est Dieu. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses. On va terminer. Oui? Ah ben ouais, il y a plein de choses que les gens peuvent croire. La plus triste pour moi, c'est il n'y a rien. Et ça, on l'entend, hein, on l'entend de plus en plus. Voilà, je meurs et il n'y a rien. Et ce à quoi vous pouvez dire, mais comment tu le sais? Et c'est intéressant. Et vous... Oui, mais ce qui est intéressant, en fait, quand on discute avec les gens, ce n'est pas toujours nous de parler et d'avoir ce qu'on appelle la charge de la preuve. C'est à toi à me prouver que... Non, on peut aussi écouter et nous poser des questions. Ok, il n'y a rien après la vie, ça marche. Prouve-moi-le. Je t'écoute. Je veux écouter tes arguments parce qu'ils m'intéressent et je suis intéressé de savoir comment tu arrives à cette conclusion-là. D'accord? Parce que nous, ils le savent. D'où viennent nos conclusions? Est-ce qu'on les cache? Non. Elles sont dans la Bible. D'où vient le mal? Ben, c'est écrit.